Nous avions vu la semaine passée que nous étions supposés mettre nos sandales et partir à la conquête des cœurs, fondée en et sur l'Évangile. Nous avions également vu en quoi consistait l'Évangile et quels étaient les « outils » entre guillemets, utilisés par Dieu pour faire entrer l'homme dans le royaume de Dieu. Pour terminer, l'évidence nous est apparue que pour la grande majorité d'entre nous, les sandales étaient un élément souvent manquant de notre armure spirituelle dont Paul parle en Éphésiens 6. Pourquoi avons-nous tendance à ne pas parler de notre foi ou à ne pas prêcher l'Évangile, comme le dit Paul? Pourquoi nous contentons-nous souvent de lieux communs ou encore plus souvent d'adapter le message afin de le rendre plus acceptable? Pourquoi avons-nous cette conviction qu'en en édulcorant l'Évangile, en le réduisant, nous finirions bien par le partager tout de même, au bout du compte? En d'autres termes, pourquoi ne faisons-nous pas tout simplement ce que notre Seigneur nous dit? Comme évoqué brièvement la semaine passée, la réponse à ces questions est sans doute parce que nous avons peur du rejet, peur du ridicule, ou même les deux, le plus souvent. Ce que j'aimerais rappeler d'emblée, non pas pour nous culpabiliser, mais bien pour redire la vérité de Dieu révélée dans sa parole sur ce sujet, c'est que le salut du monde est contenu uniquement, j'insiste sur le « uniquement », dans le message terrible, horrible, mais salvateur de la croix. Il nous plaît peut-être pas le message, mais on n'en a pas d'autre. C'est par exemple la raison pour laquelle l'apôtre Paul, malgré toute son érudition et ses capacités à plaider, à disserter, à gloser et à convaincre, déclara aux chrétiens de Corinthe, et je lis 1 Corinthiens 2:2, « Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et il ajoute, pour clarifier son propos un peu plus loin, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Parce qu'une foi fondée sur la sagesse des hommes, sur ce que les hommes peuvent bien comprendre de Dieu par leurs propres moyens, n'est pas la foi biblique, n'est pas la foi qui sauve. Je vais le dire autrement, personne n'entrera dans le royaume de Dieu en dissertant de temps en temps avec des chrétiens sur Dieu et sur Jésus. Pas d'artifice, pas de raisonnement ou d'élaboration complexe, afin de mieux faire passer la pilule. La croix, rien que la croix, l'évangile pur, j'allais dire dans sa nudité. On n'a donc pas à être un érudit, ça c'est une bonne nouvelle, ou un intellectuel pour prêcher l'évangile. C'est aussi une application à tirer de ce passage, me semble-t-il. Autrement dit, l'apôtre refuse les pratiques du monde en termes de rhétorique et de persuasion pour s'en remettre uniquement à Dieu et justement à la puissance de son évangile. Nos tentatives d'expliquer et de philosopher n'auront qu'un effet, noyer l'évangile dans des considérations autres et le rendre totalement inaudible. Le message est simple et c'est cette simplicité qui le rend paradoxalement puissant autant que difficile, audible autant qu'inaudible. Un enfant peut le comprendre et des enfants le comprennent et le reçoivent et des enfants peuvent le prêcher. Voici comment Paul qualifie l'évangile. Je prends un premier verset dans la lettre de Paul à l'église de Rome, Romains 1, verset 16, c'est dans le Nouveau Testament. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Bon, » il y a une chronologie parce que l'Évangile a d'abord été annoncé aux juifs et après au monde entier. Ici, il faut prendre le terme grec dans un sens générique. Hein, c'est tous les peuples hors Israël. L'erreur que nous commettons tous, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens ne se sentent pas mal à l'aise avec l'Évangile. Cette erreur, nous la commettons tous, en tout cas ceux qui essaient de partager leur foi. Essayez de faire en sorte que les gens ne se sentent pas mal à l'aise avec ce que nous allons leur dire. Mais mes amis, l'Évangile, le vrai, il met mal à l'aise. Nous excluons dès lors de l'Évangile tout ce qui pourrait sembler choquant, alors que ce qui choque les gens est précisément ce qui peut aussi les faire réfléchir et les amener à Dieu. Personne n'aurait l'idée, je pense, de retirer la matière active d'un médicament avant de le donner au patient. Ce serait totalement ridicule. Ça s'appelle un placebo, hein, si vous ne savez pas. Donc on édulcore, on homéopathe, vous faudra m'excuser ce néologisme absolument affreux, on édulcore en espérant qu'on pourra ainsi, sans faire trop de dégâts, faire entrer des personnes dans le royaume de Dieu. Je suis désolé, mais Bible en main, ça ne marche pas comme ça. Et vous et moi pourrons dès lors passer toute notre vie dans l'illusion que nous partageons l'évangile alors qu'il n'en est en fait rien. Il est d'ailleurs symptomatique que nous prions souvent Dieu pour qu'il dispose des circonstances afin que nous puissions parler. Alors vous pouvez prier Dieu pour qu'il vous aide à être clair, à être compréhensible, mais ne lui demandez pas de provoquer l'occasion de parler puisque votre entrevue avec des personnes que vous aimez, que vous connaissez, est l'occasion. Il faut parler, c'est tout. Un petit verset dans la deuxième lettre de Paul à son fils spirituel Timothée, qui à l'époque est pasteur de l'église d'Éphèse. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, et plus loin, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Mes amis, l'évangile prospère uniquement avec l'aide du Saint-Esprit et notre collaboration, et, je rajoute, au milieu de l'hostilité des hommes. Alors, vous avez peur d'être critiqué, quand l'on vous prenne pour des fous, ça tombe bien, c'est exactement ce qui risque de se passer. Le nombre de fois on m'a dit « tu es un fou », je ne sais même plus les compter. Hein. Mais certains de ces hommes, qui vont peut-être dans un premier temps vous traiter de fou, finalement certains d'entre eux vous diront merci. Merci de leur avoir communiqué la lumière de l'Évangile. La tentation que nous avons à titre individuel ou même parfois en tant qu'Église de rendre l'Évangile plus acceptable, plus consommable, c'est ce que certains appellent aujourd'hui, ces sociologues chrétiens, le mythe de l'influence. Et d'après ces observateurs, de nombreuses églises organisent leur vie d'église en se basant sur cette approche. Alors, c'est un peu complexe, donc j'ai résumé ça en une phrase. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Voici comment on peut la résumer, cette approche. Si je suis cool, et si ce que je présente comme message est cool, ils penseront que Jésus est cool aussi. Alors mes amis, l'évangile de Jésus-Christ ne sera jamais cool, et pour la simple raison qu'il est scandaleux, honteux et donc difficile à croire. Croire en l'évangile, c'est aller à l'encontre de tout ce qui est naturel à l'homme, absolument tout. Et c'est parce que la croix qui est au cœur de la bonne nouvelle est si honteuse que même de véritables chrétiens nés d'en haut, nés de l'esprit, nés de nouveau, comme on l'a vu la semaine passée, ont du mal à proclamer cet évangile. Il faut donc que nous prenions conscience d'une chose importante. Les chrétiens que nous sommes n'adoucissent pas l'évangile pour le rendre plus facile à comprendre, mais pour relâcher la pression qui repose sur eux. Je vais répéter ça. Nous n'adoucissons pas l'évangile pour le rendre plus facile à comprendre, mais pour relâcher la pression qui repose sur nous. L'évangile va produire de l'hostilité, il en a toujours produit. Et aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui sont persécutés parce que malgré l'opposition, malgré la pression, ils continuent à prêcher l'évangile et certains en meurent et certains en sont torturés et certains sont en prison à cause de ça. Pourquoi croyez-vous que les apôtres sont tous morts martyrs et qu'ils ont tous eu, avant de mourir, une vie bénie de Dieu, mais au milieu de mille et une persécutions? Jésus l'a dit d'ailleurs à ses disciples. Vous n'êtes pas plus grand que votre maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. À cause du message que je vous laisse à transmettre. Plus proche de nous, il est frappant de relever le nombre de pasteurs américains. Je dis américains parce que de facto, c'est les pasteurs américains protestants qui sont le plus sur YouTube, etc., qui sont plus intégrés, entre guillemets, à la vie sociale aux États-Unis. On les invite, par exemple, sur des plateaux télévisés. Eh bien, aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube voir certains de ces pasteurs s'exprimer, on les accueille dans des émissions de grande écoute publique pour leur poser des questions par rapport à leur foi. La plupart d'entre eux, je vous assure, j'ai été en visionner quelques-unes ces dernières semaines, et je ne le critique pas, je constate, hein, la plupart d'entre eux n'osent même plus dire le nom de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'être ridicules devant des millions de téléspectateurs. Et ce phénomène n'est pas neuf. Toujours la deuxième lettre de Paul à son fils spirituel, qui est pasteur, hein, n'est donc pas honte de l'évangile, du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve cette phrase extraordinaire. Paul est en train de dire à un pasteur de ne pas avoir honte de ce qu'il est supposé prêcher et de ce qu'il est supposé faire sa vie, constituer sa vie, son existence. Paul sait que le risque existe même pour son fils spirituel d'avoir honte de l'évangile, à cause des conséquences, à cause du ridicule, à cause du rejet et éventuellement même de la persécution. Mais c'est quand même une étrange recommandation à faire à un pasteur en enseignant la parole de Dieu. Et pourtant, un pasteur dont je tairai le nom a été invité par Oprah Winfrey. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la Michelle Drucker américaine. Voilà, vous vous situez. Dans son émission. Et quand elle lui a demandé si Jésus était le seul chemin qui mène à Dieu, il a commencé à faire des circonvolutions, à bafouiller, et a fini par connaître ce qu'il redoutait par-dessus tout, à savoir se couvrir de ridicule. Il aurait mieux valu pour lui qu'il connaisse le ridicule d'avoir dit la vérité, l'évangile, oui, le Christ est le seul chemin qui mène à Dieu, et de prendre tous les plâtres qui vont avec. Maintenant, je ne critique pas, je constate encore une fois, j'aurais été sur ce plateau, je ne suis pas sûr que j'aurais eu les cojones, comme on dit en espagnol, d'envoyer la sauce. L'évangile est tellement difficile à croire que la honte que ressent la personne qui entend le message se retourne contre le messager. C'est bien connu, en cas de nouvelles que l'on ne veut pas entendre, on tue le messager. J'aimerais revenir sur notre verset de Romains 1, 16 que je vous relis. « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Paul ne dit pas ça en l'air. Cette parole ne sort pas de nulle part, il y a un contexte à cette parole. Donc pourquoi dit-il cela ? À première vue, ça n'a aucun sens. En effet, c'est comme si quelqu'un découvrait le vaccin pour guérir du cancer et que lors de la conférence de presse qui suit cette annonce de sa découverte, il déclarait « J'ai découvert ce vaccin il y a plus de 20 ans. » Mais cela m'a mis tout ce temps pour vaincre la honte de vous l'annoncer. Pourquoi, à l'instar du personnage de cette petite illustration, devrions-nous être gênés d'avoir découvert en l'Évangile le remède, contre le péché qui est le nôtre, contre ce mal qui s'est instillé en l'homme lorsqu'il a voulu devenir Dieu plutôt que demeurer la véritable image du vrai Dieu sur cette planète? Pourquoi devrions-nous avoir honte? C'est pourtant bel et bien cette honte qui nous rend silencieux. C'est cette honte qui nous transforme en pâtissiers théologiens et nous fait recouvrir le gâteau de l'Évangile d'un glaçage sirupeux, de manière à le faire passer. Tout ça donc en vue de le rendre plus agréable, plus onctueux, plus acceptable, et avec pour but ultime surtout de ne pas produire d'hostilité contre nous. Paul, par la puissance du Saint-Esprit, est arrivé à un point de sa vie où il peut dire aux Romains, aux chrétiens de Rome, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Heureux, heureux Paul. Non ? Il dit ça dans un contexte, une époque, une culture dans laquelle les notions de honte et d'honneur sont pourtant d'une importance considérable, beaucoup plus qu'à notre époque. Il faut se rendre compte que la vie sociétale tout entière dans l'Empire romain est rythmée par ces notions de honte et d'honneur. Voici ce qu'écrit Homère, grand philosophe grec, l'Iliade, pour ceux qui ont un peu lu. Voilà ce qu'il dit. Le meilleur, c'est que l'on parle de bien en bien de vous. Le pire, c'est que l'on parle de mal de vous, en société. Tout ce qui compte, c'est l'apparence. Il faut qu'on honore votre nom et surtout pas qu'on le traîne dans la boue. Évitez la honte et recherchez l'honneur. Voilà la devise du monde du premier siècle dans lequel Paul vivait. C'est donc au sein de cette culture, si sensible à la honte, que Paul prêche cet évangile dont lui n'a pas honte. Il prêche sans honte un message que tout le monde trouve honteux concernant un homme qui, en mourant sur une croix, s'est couvert de honte. Commencez à comprendre pourquoi il y a de la honte mêlée à l'évangile. En fait, si on avait demandé l'avis des contemporains de Paul qui entendaient ce message, ils auraient certainement dit pour la grande majorité d'entre eux, ce message ne devrait même pas être entendu, tellement ce message est honteux et scandaleux. Seulement voilà, c'était, du temps de Paul, le seul chemin par lequel les pécheurs pouvaient entrer dans le royaume de Dieu. Et 2000 ans plus tard, c'est toujours le cas. J'aimerais m'arrêter maintenant sur quelques versets dans une autre lettre de Paul, un autre passage clé. Et ce passage se trouve dans la première lettre de Paul à l'église de Corinthe, en Grèce, chapitre 1, versets 18 à 23. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent ou qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage, où est le spécialiste de la loi, loi de Moïse, où est le discoureur de l'heure actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. En clair, Paul dit, ils vont tous, quels qu'ils soient Juifs ou pas, ils vont vous prendre, les Juifs vont vous dire, c'est scandaleux ce que tu dis, c'est, tu devrais avoir honte. Et les Grecs et les Romains disent, mais tu débites des âneries, quoi. C'est ça le contexte, hein. Il a plu à Dieu, dit Paul. Il a plu à Dieu de faire comme ça. Et quand il plaît à Dieu, même pour ceux qui n'y croient pas, ben, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Parce qu'il est Dieu. Dieu a décidé que l'entrée dans son royaume se ferait au moyen de la proclamation de ce message que nous avons tant de mal à proclamer et qui est appelé ici par l'apôtre, verset 18, le message ou la prédication de quoi ? De la croix. Message qui est soit dit en passant, la puissance de Dieu. Le mot puissance est important. La puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Enfin, pour ceux qui sont chrétiens parmi nous ce matin, heureusement que quelqu'un a eu le courage de nous prêcher l'évangile. Hein. Moi, je peux vous donner son nom à ce gars-là. Le pauvre, il a eu du mal. Hein. Et me foutre de sa balle, je vous ai garanti que moi, je me suis foutu de sa balle. Hein. Mais il a tenu et me voilà. Ce passage montre combien l'évangile, la bonne nouvelle de la croix est honteux et pourquoi les tentations pour l'édulcorer n'altèrent en fait en rien le scandale du message. Que vous tourniez autour du pot, à un moment vous allez devoir mettre les pieds dans le pot et envoyer des disques qui est. L'évangile de la croix est moria en grec, c'est-à-dire folie, déraison, stupidité. C'est de ce terme grec que vient le mot anglais moron qui signifie imbécile. Et ce message, dit Paul, est pour ceux qui sont apolloumenois, c'est-à-dire perdus, en ruine, même s'ils ne savent pas, non régénéré par la présence de Dieu. Et ce message de salut va être néanmoins considéré par une grande majorité comme idiot et imbécile. Donc je suis au service depuis plus de 30 ans d'un message idiot et imbécile. Et ceux qui me connaissent doivent bien prendre conscience d'une chose, c'est qu'il faut être convaincu, quoi. Tout ceci étant dit, je ne suis pas certain que nous comprenions réellement ça. Parce que ça revient à dire, si on y réfléchit, que Dieu a voulu élaborer un message, c'est ce que dit Paul, hein, qui est difficile à croire. Quand vous voulez vendre un truc, il y a des publicitaires qui, toute leur vie durant, passent leur vie à essayer de donner un message, d'inventer des slogans pour vendre leurs produits. Et Dieu, lui, pour vendre son... Excuse-moi, Seigneur, d'employer ce terme commercial. Dieu, pour vendre ce truc, l'Évangile, il s'est dit, moi, je n'ai pas inventé un slogan qui frappe et qui est facile. Je vais engager les plus mauvais publicitaires au monde pour que ce truc soit totalement irrecevable et inaudible. Avouez, c'est bizarre quand même. Dieu a élaboré un message qui est difficile à croire. En fait, Dieu n'aurait pas pu choisir un message plus difficile à croire que celui-là. Parce que l'idée de Dieu, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, hein, l'idée de Dieu mourant sur une croix était idiot autant pour les Juifs que pour les païens, même s'ils n'avaient pas la même conception de Dieu. Les Juifs, c'est notre passage qui nous le dit, recherchaient des signes, des évidences spirituelles, des miracles manifestant que leur Messie, leur Sauveur, était là. Alors oui, je sais, ils ont eu tout ça pendant le passage de Jésus sur cette terre et ils n'ont pas cru. Donc ils recherchaient des signes et Dieu leur donne une pierre d'achoppement, une pierre, un obstacle sur laquelle ils vont trébucher. C'était prophétiquement annoncé entre autres par Ésaïe et Jérémie, les Juifs se casseront la figure sur le message de l'Évangile. Ils n'y croiront pas. Les Grecs, eux, terme générique ici pour tous ceux qui ne sont pas juifs, recherchaient la sagesse, une forme de connaissance ésotérique, transcendantale, une expérience spirituelle privilégiée. Ils recherchaient la sagesse et Dieu, pour les sauver, leur annonce une folie. Le pire qu'on pouvait annoncer à un Grec, en fait. D'ailleurs, pour ceux qui ont un peu de connaissances bibliques, rappelez-vous du texte des Actes où Paul se retrouve à Athènes, et comme il prêche l'Évangile, il est invité par les philosophes de la ville à exposer son message devant eux. Ça se passe tant qu'il approche les trucs, ça se passe bien, et dès qu'il commence à rentrer dans le dur, il le plante là, on dit « Ouais, laisse tomber, c'est bon, ce gars-là, arrête, ton mission, ridicule. » Mais il y a quand même, le texte dit qu'il y en a quand même certains qui restent et qui se convertissent, hein, mais la grande majorité des philosophes, mais qu'est-ce que c'est encore pour un dégénéré qui prêche n'importe quoi ici? Même Paul, alors quand on parle de Paul, c'est un grand apôtre. On dit, oui, mais Paul, il avait... Non, Paul, il s'est pris des râteaux, mes amis. Je vous garantis. Pour les Juifs, un sauveur crucifié, était non seulement offensant, mais également blasphématoire. On rajoute une dimension. J'y reviendrai tout à l'heure. Quant aux Grecs qui recherchaient la sagesse, ils ont considéré toute cette histoire comme la plus grande stupidité qui soit. Et on peut comprendre les Juifs et les Grecs. Comment concevoir que le créateur éternel de l'univers pour les Juifs ait le concept, le logos éternel, structurel de l'univers, ait été crucifié sur une croix? C'est totalement idiot, c'est de la pure folie. Alors laissez-moi vous donner quelques informations qui nous permettront de comprendre pourquoi Paul affirme avec force, au-delà de son expérience personnelle, que l'Évangile est effectivement invendable, irrecevable par la grande majorité des mortels. La crucifixion était une horrible façon d'administrer la peine capitale. On ne la pratique plus aujourd'hui, Dieu merci, enfin je pense. Mais on a tous vu des films, on a tous entendu des explications sur la crucifixion. On sait que c'est quand même pas top comme manière de mourir. Au départ, nous la devons, vous ne le savez peut-être pas, aux Perses. C'est les Perses qui ont inventé ça. Société pourtant très civilisée pour l'époque, surtout dans ce genre de choses. Dans la crucifixion, on l'a donné aux Perses, et je ne vous apprendrai rien en vous disant que les Romains l'ont adopté assez vite. C'est beau, la transmission culturelle. Alors, quelques données historiques pour vous faire prendre conscience de certains éléments. Darius, roi de Perse, lors de la prise de Babylone, a crucifié 3000 Babyloniens. Il n'avait pas transporté les croix avec lui, il a dû donc les faire fabriquer. C'est du boulot, rien que pour clouer un gars dessus, sur une croix. Alexandre le Grand, là peut-être dans ce cas-là, il faudrait peut-être supprimer le Grand, mais bon. Irrité de ce que la ville de Tyr ne le ravitaillait pas sur son chemin vers l'Égypte, fit construire une digue de plus d'un kilomètre de long, parce que Tyr était situé sur une île au large de la côte méditerranée, à l'ouest d'Israël, si vous situez. Il a construit une digue d'un kilomètre et demi. Il a envahi la ville, il a détruit la ville, et il a fait crucifier 2000 habitants de Tyr tout le long de la côte méditerranéenne. Alexandre Janet, aux alentours de 100 avant Jésus-Christ, fils de Jean Hyrcan, ça vous dit rien, je sais bien, de la dynastie des Asmonéens, monte sur le trône de Judée et s'autoproclame grand prêtre du temple. Roi et grand prêtre, pas possible. Ce qui provoque une révolte des pharisiens qui existaient déjà à l'époque, donc la faction la plus dure, religieuse la plus dure de l'époque. Les pharisiens se révoltent, la révolte matée, il fera crucifier 800 pharisiens et égorger leurs femmes et leurs enfants au pied de leurs croix respectives. Vous imaginez le tableau? Vous êtes crucifiés et on vient égorger vos enfants et votre femme au pied de votre croix. Cet événement fixa l'horreur de la crucifixion dans l'esprit des Juifs pour toujours. En 63 avant Jésus-Christ, les Romains, à travers Pompée le Grand, prennent le contrôle de la région, donc de la Judée, et les crucifixions pleuvent. Félix, pas le chat, l'autre, le procurateur romain de Judée de 52 à 58 après Jésus-Christ, bien connu des lecteurs de la Bible et du livre des Actes en particulier, fit crucifier de nombreux criminels. Et lorsque Titus détruisit Jérusalem et son temple en 70 de notre ère, il y eut des crucifixions de masse un peu partout. En fait, les crucifixions s'arrêtent lors de la prise de Jérusalem pour une simple et bonne raison structurelle. Matériel, c'est que les Romains n'avaient plus de bois. C'est pour ça que ça s'arrête. Ils avaient utilisé tout le bois disponible. Finalement, c'est en 337 de notre ère que l'empereur chrétien de Rome, Constantin, abolit la crucifixion dans tout l'Empire. J'aurais encore pu vous parler de Crassus et de la révolte des esclaves menée par Spartacus. Il en a crucifié quelques-uns aussi, mais je crois que vous avez compris le principe. Tout cela démontre donc, étude historique à l'appui, que la crucifixion était malheureusement une chose très, très commune. Certains historiens relèvent qu'aux alentours de la période où vécut Jésus, plus de 30 000, entendez le chiffre, plus de 30 000 crucifixions furent consignées sur les tablettes romaines. Prenez note de tout. Hein. 30 000 sur approximativement l'existence de Jésus. Sachant tout cela, comment ce Jésus pourrait-il être quelqu'un d'exceptionnel, puisqu'il meurt de cette manière-là? Comment prétendre qu'il est Dieu incarné alors qu'il meurt, non seulement d'une manière courante pour l'époque, mais aussi de la façon la plus vile, puisque c'est ainsi que mouraient les plus infâmes, criminels? Les citoyens romains, par exemple, vous le savez sans doute, ne pouvaient pas subir la crucifixion tellement c'était avilissant. La seule raison pour laquelle un citoyen romain pouvait être condamné à cette horrible pratique, c'était pour cas de trahison envers Rome. Parce que s'ils trahissaient Rome, ils étaient déchus de leur citoyenneté et pouvaient dès lors être crucifiés comme n'importe qui d'autre. La crucifixion était donc le lot des traîtres, des peuples conquis, des assassins et des voleurs. On comprend donc que la politique de l'Empire romain concernant la crucifixion comme outil de terreur et de répression ait mené les Romains eux-mêmes à n'avoir que mépris pour ceux qui connaissaient cette mort. Les Romains méprisaient la crucifixion. Et tout le processus, on n'en prend pas conscience, mais tout le processus de la flagellation au fait de porter la poutre horizontale de la croix sur les épaules, en passant par l'acte d'accusation porté autour du cou par le condamné, ainsi que la nudité complète, on était tout nu, hein, les clous et le lieu du supplice situé en hauteur, afin que le plus grand nombre puisse assister au spectacle, n'avait pour but que d'exprimer le mépris envers celui qui connaissait ce supplice. Nous savons, parce que les évangiles nous le disent, qu'on pouvait écourter le supplice en brisant les jambes du malheureux. Il ne pouvait plus s'appuyer dessus, donc il mourait par suffocation relativement vite. Mais en temps normal, on ne faisait pas ça. Et la mort pouvait durer, on pouvait attendre la mort pendant des jours durant. La plupart du temps, une fois la mort constatée, on laissait les oiseaux finir le travail. Durant le siège de Jérusalem, l'historien juif Flavius Joseph décrit les nombreuses positions abominables dans lesquelles les Romains crucifièrent les Juifs. Ça va, la coupe est pleine, on a limite la nausée, c'est bon, c'était le but. Hein. Mais si on n'arrive pas à ça, on ne comprend pas ce que Paul dit. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes romain. Petite seconde. Hein. Imaginez-vous que vous êtes romain et que des chrétiens d'origine juive, un peuple que vous méprisez aussi au passage, vous annoncent que ce vague agitateur de Galilée nommé Jésus était Dieu fait homme et qu'il est mort pour vos péchés. Plus facile à vendre l'évangile au premier siècle, vraiment, trouvez qu'aujourd'hui, c'était plus facile, honnêtement. Les païens regardaient quiconque était crucifié avec un profond mépris. La crucifixion était une telle obscénité qu'il ne convenait pas d'en parler en bonne compagnie. Les gens, comme il faut, ne parlaient pas de crucifixion. Ça ne se faisait pas. Cicéron, sénateur connu, hein, un de ceux qui a participé au complot et à l'assassinat de Jules César, aux Ides de mars, oui, c'est ça. Voilà ce qu'il écrit. Le mot même de croix devrait être supprimé des pensées, des yeux et des oreilles de tout citoyen romain. Il ne plaide pas pour l'abolition, là. Il dit, ça existe, et c'est bien que ça existe, mais on n'en parle pas. Parce que c'est honteux d'en parler. Quoi. Oh, quelle horreur. Le mépris des Romains pour la crucifixion et pour le Seigneur des chrétiens crucifiés se retrouve même dans leur graffiti. On a découvert à Rome, près du cirque Maximus, un graffiti gravé sur une pierre dans un corps de garde. C'est le même graffiti, c'est deux photos différentes. Alors, ce n'est pas très clair, donc je vous décris la scène. Il représente un homme crucifié, devinez qui c'est, ayant une tête d'âne. Et au bas de la croix, un personnage dans une attitude d'adoration, le tout portant la mention de Alexamenos adorant son Dieu. Le graffiti date du IIe siècle. le Charlie Hebdo de l'époque. On se fout de la gueule de Jésus et on se fout de la gueule de ceux qui l'adorent. Tout ça 2 siècles après la mort de notre Seigneur. Et il n'a pas employé une bombe pour faire ça. Il a dû graver ça dans la pierre. Ça a dû, non, il a motivé, hein, ça a dû prendre des plombes hein, pour taper ça au burin. Comprenez ? De la pure moquerie, du pur mépris, tout ça 2 siècles après la mort de Jésus sur la croix. Donc pour les païens, l'idée que le Seigneur Dieu ait pu connaître pareille humiliation était donc totalement inconcevable. Alors quant à l'attitude des juifs envers la crucifixion, je sais bien que vous avez dit « c'est bon, on a compris ». Non, non, c'est pire pour les juifs, parce qu'ils rajoutent une dimension que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est celle du blasphème. Ils détestaient cette pratique romaine encore plus que les païens, et on a vu pourquoi, hein, parce qu'ils étaient eux-mêmes passés par là, en tant que peuple conquis et opprimé par Rome, mais ils ont été encore plus loin dans la détestation, parce qu'ils voyaient un crucifié comme quelqu'un, écoutez bien, portant sur lui la malédiction de Dieu. Alors, ils n'ont pas sorti ça nulle part, les Juifs. Hein. C'est dans le Deutéronome, c'est dans la loi de Moïse, Deutéronome 21-23. Mourir, si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, tu l'enterras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu, pendu sur une croix, est maudit de Dieu et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Mourir comme un criminel, mourir comme maudit de Dieu, et tu me dis que c'est mon Messie et qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, mais ce que tu me dis est totalement scandaleux. C'est un scandale ce que tu me dis. Alors les Juifs, pour que ça soit bien compris, ne pratiquaient forcément pas la crucifixion. Par contre, il leur arrivait parfois de suspendre des corps, donc des cadavres. Les blasphémateurs, par exemple, les idolâtres, après avoir subi la mort par lapidation, donc à coup de pierre, étaient suspendus afin que tout le monde les voie, puis mis en terre le même jour sans connaître les rites funéraires juifs qui durent en moyenne une semaine. Ces pratiques confirmaient dans les faits le passage du Deutéronome que nous venons de lire. C'était fait pour, en fait. C'était pour matcher, faire correspondre ce message de malédiction, voilà, le mot m'échappait, ce message de malédiction envers ceux qui étaient pendus au bois. Jésus, pour les Juifs, était donc maudit de Dieu. Et vous venez leur servir qu'il est leur Messie et que c'est pour eux qu'ils subissent ça. Je vous ai demandé de faire un effort tout à l'heure pour être romain. Faites un effort pour être juif, maintenant. Dans les deux cas, inaudible ce truc, quoi. Alors, si je vous ai raconté tout ça, ce n'est pas par amour pour ce qui est atroce, rassurez-vous, ni pour vous écœurer, et encore moins pour étaler ma science historique. Mais bien pour que vous preniez conscience à quel point la détestation pour la crucifixion et pour les hommes qui la subissaient était immense parmi les hommes et les femmes du 1er siècle, qu'ils soient juifs ou païens. Ce qui signifie que la crucifixion de Jésus constituait un obstacle immense à la proclamation de l'Évangile. Alors, vous savez comme moi que de nos jours, une croix est quelque chose de présent dans les églises, et ça, elles peuvent être très belles d'ailleurs, hein, de différentes tailles et tout, ou un beau bijou à pendre autour de son cou, ou une belle bague à avoir autour de son doigt. Alors que pour les hommes du 1er siècle, la croix était bel et bien, comme le dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens, un scandale, une pierre d'achoppement, une idiotie et une folie. Le message de l'Évangile est donc un message terriblement difficile à croire. Pour les Juifs, accepter l'Évangile revenait à admettre qu'ils devaient placer leur confiance en celui qu'ils estimaient être maudit par Dieu. Essayez de faire ce grand écart si vous êtes juif. Donc il semble que Dieu ait bel et bien placé sur le chemin des juifs un terrible obstacle, une immense pierre d'achoppement. Un auteur païen écrit quant à lui, après avoir entendu ce message, « La croix est une superstition perverse et extravagante. » Un autre, un peu plus tard, « C'est un délire malsain. » C'est un délire malsain, ce message. Martin Engel, le théologien luthérien et historien allemand, écrit ceci dans son livre « Crucifixion ». J'ai traduit l'anglais, écoutez bien. « Croire que le Fils unique est préexistant du seul vrai Dieu, le médiateur de la création et le sauveur du monde, est venu sur cette terre, dans cette région ignorée de Galilée, en tant que membre de cet obscur peuple juif, et pire, qu'il a connu la mort du plus commun des criminels sur une croix, ne peut être considéré comme une pure folie. Les vrais dieux de la Grèce et de Rome se distinguaient du commun des mortels par le simple fait qu'ils étaient immortels et n'avaient absolument rien en commun avec celui qui fut pendu au bois de la plus ignominieuse des manières et mourut de la plus honteuse des façons. » C'est un bon résumé. Hein. Vous avez dit difficile, hein? Pourtant, c'est ça l'histoire. C'est ça la vérité. Et c'est ça la croix. J'aimerais bien vous dire qu'il y a un autre message, hein, plus facile, plus vendable. Mais il n'y en a pas. Il n'y a ici rien d'agréable à entendre pour qui que ce soit, rien d'accommodant à vendre. Il n'y a dans tout ça rien de facile à croire. C'est une absurdité, une obscénité. Mais c'est ça l'Évangile et nous n'avons rien d'autre à partager parce qu'il est, je le rappelle, la puissance de Dieu pour le salut du monde. Alors je terminerai en disant ceci. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu au travers de ses propres réflexions sur Dieu, sur l'univers, sur les religions. Personne ne sera accueilli par Dieu sur la base de la sagesse du monde, de la philosophie, nous dit Paul. Parce que cette sagesse, et c'est Paul qui le dit, est une folie aux yeux de Dieu. Paul le dit aux chrétiens de Rome, se croyant sage, il parle des hommes, hein, se croyant sage, ils sont devenus fous. Car le problème de l'homme est justement qu'il se croit sage, alors qu'en fait, il est fou. Il ne faut pas être fou pour dire que Dieu n'existe pas. Rappelez la semaine passée, psaume 14. Oui, psaume 14, je me sens, oui. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a comme fou sur cette planète, hein? Et parce que l'homme se croit sage, et donc hermétique à la véritable révélation que Dieu fait de lui depuis que le monde est monde, Dieu a décidé de le sauver en prêchant le plus invraisemblable message que l'histoire ait connu. Dieu s'est fait homme, est mort sur une croix de la plus infâme des manières pour porter le péché commis par les hommes depuis que le monde est mort, et par sa mort et sa résurrection, leur ouvrit la porte de la réconciliation avec lui au travers de leur foi en ce que Jésus, leur Seigneur, a accompli à la croix. That's the message. Je traduis pour les non-bilingues. C'est ça le message. Mais c'est beau, hein. C'est ça le message. À partir de dimanche prochain, je ne vous ai pas dit, mais je prêcherai en anglais. Vous allez peut-être mieux comprendre ce que je raconte, hein, qui sait. Donc, peu importe vos réflexions, vos questions, vos objections, car nous l'avons vu, la croix heurte non seulement nos sentiments et nos émotions, mais aussi notre réflexion. Peu importe, quiconque doit entrer dans le royaume de Dieu y entrera par la puissance de l'Esprit Saint, au travers de la prédication de l'Évangile, par la grâce de Dieu et au moyen de la foi. Vous savez, quand on regarde l'Église aujourd'hui, on peut être légitimement inquiet pour toute une sorte de bonnes raisons. Et s'il y a un pessimiste par nature ici, c'est moi. Mais, il y a une chose qui m'a toujours encouragé en étudiant la Bible et l'histoire de l'Église. Il ne faut qu'un homme, pas deux, hein, un, pour que Dieu renverse les tables et mette tout sans dessus dessous. Prenez l'Europe au début du XVIe siècle. L'Église connaît probablement une de ses périodes les plus sombres. C'est n'importe quoi. C'est un lieu d'idolâtrie, de perfidie, d'enrichissement personnel. C'est une catastrophe. Et tous les chrétiens vertueux qui constataient ça, disaient, c'est pas possible. Cette Église va être détruite. C'est pas possible. Le jugement de Dieu va s'effondrer, va tomber sur cette Église. C'est impossible. Et pourtant, par un homme, un certain Martin Luther, Dieu va gagner l'Europe à l'Évangile. Et puis le monde, je dis bien le monde, un homme qui prêche l'Évangile et tout peut changer. Et vous êtes cet homme et vous êtes cette femme. Regardez pas autour de vous, hein. C'est à vous que Dieu s'adresse. Hein. Alors oui, c'est de la pure folie quand on y songe, tout ça, vraiment. Mais que c'est bon, mes amis, d'être fou de la sagesse de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.